Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
In My Shoes.
Si les politiques de diversité et d'inclusion tentent de réduire les discriminations, le concept d'intersectionnalité a émergé, visant à mesurer l'impact de discriminations multiples, de sexe, de classe, d'ethnicité, mais aussi de handicap ou d'orientation sexuelle, qui se croisent et parfois se renforcent. Les écarts à la norme permettent de prendre conscience de la difficulté à être soi en entreprise quand nous ne correspondons pas à la norme dominante. C'est pourquoi notre épisode aujourd'hui s'intitule « Les écarts à la norme, un levier de progrès pour les entreprises ». Et c'est Amou Bouakaz, expert conférencier sur les sujets de l'inclusion, qui est notre invité.
Être disponible au voyage vers l'autre, estomper ses préjugés, c'est la meilleure façon d'accueillir les aléas de l'existence. Ça vous rend plus plastique, plus souple, plus ouvert à des choses inconnues, à des choses inattendues. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que d'être surpris, d'être étonné ?
Amou Bouakaz a été adjoint au maire de Paris entre 2008 et 2014, en charge de la démocratie locale et de la vie associative. Aveugle de naissance, il est l'un des très rares élus français porteurs d'un handicap. Amou Bouakaz est aussi auteur d'un livre paru en 2011, « Aveugle, arabe et homme politique, ça vous étonne ?». Il est aussi président de Up Entrepreneur, une association qui rend visible les entrepreneurs en situation de handicap. Vice-président de Bleu Blanc Zèbre, une association qui place la coopération interacteur au cœur de son action. Vice-président de ISM Interprétariat pour les migrants. Partout, il questionne, et si le succès n'était obtenu que par l'écart à la norme ? Amou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez utilisé une expression en disant que vous étiez, c'était très romantique, un troubadour de l'altérité ou un cocktail de la discrimination.
Moi, mon métier, c'est d'aller dans les entreprises et d'aller raconter comment c'est bien d'être différent, de faire un pied de nez à ce qui paraît évident. Comment c'est bien, dans un monde où la vue est prédominante, d'être aveugle. Donc, effectivement, un troubadour, c'est quelqu'un qui va de ville en ville et qui raconte sa chanson. Effectivement, moi, je considère que je suis un VRP multibug. C'est ce qui me nourrit. C'est ce qui m'a permis de faire effectivement beaucoup de choses. Et je les ai faites toujours d'une façon originale. Aller vers les managers en les déstabilisant, en les faisant sortir de leur zone de confort, c'est quelque chose de formidable. Jamais en étant culpabilisant ou en leur faisant peur, non. Simplement en leur proposant un voyage dans l'altérité et en les ramenant au port, mais enrichis. Mais en fait, c'est une allégorie de l'histoire du monde. Vous savez, si le premier être humain n'était pas allé à la conquête du reste du monde, il n'aurait pas rencontré une autre tribu, il ne se serait pas marié, et la vie ne serait pas advenue. C'est ça l'extraordinaire de cette terre. C'est que depuis le début des temps, ça s'est construit comme ça. Ça s'est construit en voyageant vers l'autre.
Il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que vous n'avez pas été discriminé en tant qu'arabe quand vous étiez à l'école des aveugles. Par contre, c'est pas si simple quand vous voulez aller dans une mosquée.
Alors ça, c'est intéressant, ça. Parce que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, personne n'a le privilège de la discrimination. Et tout le monde discrimine. Et donc, j'ai fait cette expérience amère d'aller... Moi, ça m'arrive d'avoir... J'ai un chien guide, et donc je me balade avec lui absolument partout. Hein, la loi permet aux chiens d'aller partout. Et l'endroit où j'ai eu le plus de mal à me rendre, c'est dans la mosquée. Alors que rien dans le Coran n'interdit à un chien d'aller dans une mosquée. Évidemment, il ne va pas rentrer dans la salle de prière, mais il est suffisamment dressé pour ne pas toucher les gens qui sont autour de lui. C'est un sentiment très étrange.
Comment vous voyez votre rôle, alors, comme un agitateur d'idées, un trublion
Je suis acharné de l'optimisme, donc je suis un colmateur de failles. Dès qu'il y a un fossé, j'essaie de le combler. Je rapproche les gens, je leur fais réaliser qu'ils ont 99% de choses en commun. Ce qui est intéressant, c'est ce qui les différencie, mais qu'ils n'oublient pas de réfléchir sur ce qui les rassemble. Et donc, ces frottements-là entre des gens différents, ça peut faire des étincelles pour faire du feu, mais ça peut être aussi créateur d'énergie collective.
On parle d'écart à la norme et de l'intersectionnalité dans ce podcast. Est-ce qu'avoir plusieurs différences avec la majorité des gens, c'est un souci ? C'est quoi d'ailleurs le type d'écart à la norme qu'il peut y avoir ?
Il y en a plein. Ça mérite en tout cas d'être inventorié. Je sais gré aux universitaires américains d'avoir inventorié ce champ avant nous. Car en fait, des écarts à la norme, il en pousse toujours. Si vous êtes handicapé et que vous êtes technophobe, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir des discriminations cumulatives. Si vous êtes handicapé et que vous êtes senior, à ce moment-là, évidemment, les handicaps vont se cumuler. En revanche, il y a une intersectionnalité à étudier lorsque vous êtes handicapé et de milieu social modeste. Parce que là, pour le coup, les discriminations risquent de se cumuler. C'est pour ça qu'on parle d'inclusion. Oui, mais l'inclusion doit tenir compte de ces doubles discriminations.
Est-ce qu'on peut prendre des exemples aussi internationaux ? Parce que si je me tourne vers les États-Unis, où il y a énormément, enfin plus qu'en France, de noirs en tout cas. Est-ce que par exemple être noir, femme, LGBT à la fois, etc., est-ce que c'est aussi ça l'intersectionnalité ?
Alors c'est l'intersectionnalité et votre remarque m'amène à poser d'emblée le vrai débat. La question, c'est pas tant la question de l'intérêt de l'intersectionnalité, c'est plutôt la question de savoir quel est le modèle le plus pertinent, le plus souple, le plus intéressant pour lutter contre les discriminations. Parce qu'à la fin des fins, c'est ce que prétendent vouloir toutes les politiques publiques et toutes les politiques entrepreneuriales et ça dans des entreprises et ça dans tous les pays. Donc vous avez l'approche américaine qui est de dire nous, on assume, on est un pays communautariste et il y a un socle de règles communes entre les communautés, un socle de règles qui s'applique à tous, mais globalement, chacun fait la police chez lui. Et du coup, l'intersectionnalité, c'est quid de ceux qui se revendiquent de plusieurs communautés ? Comment sont-ils gérés ? Chaque communauté les revendique, et ils ont tendance, puisqu'ils ne veulent pas forcément s'assigner, à être les dindons de la farce de ce modèle communautariste. C'est compliqué. Nous, en revanche, en France, on prétend porter un modèle universaliste. C'est-à-dire qu'on souhaite brasser l'ensemble des individualités, l'ensemble des altérités dans un pot commun que l'on façonne au fil du temps et qui est le pot de la communauté universelle française.
Est-ce que vos écarts à la norme, donc qui sont multiples, vous permettent un regard sur l'importance de certains d'entre eux, et notamment l'importance qu'ils prennent suivant le contexte. Être aveugle et être arabe, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre anecdote quand vous avez commencé vos études, et me dire en quoi éventuellement il y a un écart à la norme qui a joué plus qu'un autre.
Moi je me sens comme un circassien, c'est-à-dire qu'au fond, l'écart à la norme, c'est une espèce de déséquilibre permanent. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les circassiens, parce qu'ils arrivent toujours de faire, avec le déséquilibre, de retomber sur leurs pieds. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est que le handicap génère des comportements qui ne sont pas les mêmes que ceux que génère l'origine d'un pays anciennement colonisé. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'arriver en France à l'âge d'un an. J'ai été intégré dans l'école spéciale qui enseignait aux aveugles à l'époque. Et j'ai été traité, et c'est assez curieux, par un modèle de discrimination positive. C'est-à-dire qu'on m'a donné plus parce que j'avais moins. Et on m'a donné, comme à tous les autres aveugles de l'école, d'où qu'ils viennent. Il y avait, c'était une sorte d'international, il y avait des gens qui venaient du Portugal, il y avait des gens qui venaient du Maghreb, et à aucun moment, l'origine n'entrait en ligne de compte.
Vous vous définissez comme un centre de recherche ambulant. Est-ce que vous pouvez M'expliquer ce que vous voulez dire par là.
Est-ce que vous me permettez de faire comme si on était il y a 4 milliards d'années au commencement de la vie sur Terre ?
Allons-y.
Bon, je vais y aller à grands traits, mais en gros, au commencement de la vie, après les soubresauts, un peu les espèces de cataractes sonores, il y avait de l'eau, et puis il y a eu des premiers êtres vivants. Et il est très probable que c'était des êtres vivants qui avaient des branchies et qui se baladaient dans l'eau. Et parmi ces êtres vivants à branchies, il y en a qui sont sortis pas normaux et qui avaient des espèces de trucs qui ressemblent à des poumons. Et évidemment, dans la flotte, ceux-là, ils avaient que des problèmes. Parce que dès qu'ils s'arrêtaient de respirer, dès qu'ils allaient sous l'eau, par exemple, ils buvaient la tasse. S'ils s'endormaient, ils buvaient la tasse. À la course, ils perdaient toutes les compètes de natation. J'imagine que leurs parents ont essayé de les aider, mais pour eux, ça a été très compliqué. Et puis, un jour, l'eau s'en est allée. Et tous les organismes à branchies, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Ils sont morts ou peu s'en faut. Et ceux qui ont survécu, ceux qui ont pris leur envol, c'était les anciens handicapés, ces espèces de batraciens, mais avec des poumons. Et on en est issus. Donc, en fait, la vie ne se prolonge, ne se diversifie, ne se solidifie que par l'erreur. Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. Je pourrais vous citer un milliard d'exemples. Le plus connu, c'est la création de la pénicilline. Fleming oublie je ne sais quelle solution, et puis il pousse des drôles de choses dedans, et il se rend compte que ça peut être utilisé pour combattre des infections.
Est-ce qu'on peut citer quelques exemples supplémentaires ?
Vous utilisez tous une télécommande. Mais s'il n'y avait pas eu une personne paralysée qui était venue voir son revendeur télé en lui disant « Écoute, moi j'ai un peu des problèmes pour changer les chaînes », personne n'aurait pensé à créer une télécommande. Et on serait tous très malheureux. Vous lisez tous des livres audio. Le livre audio, le fait générateur, c'est une association de bienfaisance qui trouvait que les aveugles n'avaient pas de chance et qu'ils n'avaient pas la possibilité de lire et qui s'est mis à leur enregistrer des bouquins sur des bandes. Et maintenant, tout le monde lit des livres audio. Le téléphone au départ, c'était fait pour faire en sorte que des sourds puissent lire ce qui était prononcé sur une membrane. Et de proche en proche, ça a donné le téléphone. Graham Bell, il était moniteur dans un centre pour les personnes sourdes. Les SMS, au départ, ça a été imaginé pour que les sourds puissent utiliser le téléphone. Et on ne peut plus s'en passer. Il y a des centaines d'inventions qui sont venues comme ça. Bref, en fait, le handicap rend créatif. Finalement, moi, je me définis comme une personne ordinaire, feignante, qui voudrait vivre la même vie que les autres, mais sans la vue. Et donc, c'est formidable. Tout ce qu'on arrive à développer comme ruse pour pouvoir le faire.
Comment est-ce qu'on peut imaginer faire bouger les lignes dans la société française dans laquelle on est par rapport au handicap? Vous aviez l'air de dire qu'il y avait beaucoup de carcans, que c'était compliqué, qu'on n'était pas forcément très souple en France.
Comment vous pouvez expliquer que moi qui suis aveugle de naissance, il faut que tous les ans, j'envoie un mot à la maison départementale des personnes handicapées pour dire que je suis toujours aveugle en fait. Alors que tout le monde sait que ça ne va pas changer. Dans les entreprises, on met longtemps à décider les choses, on a besoin de beaucoup réfléchir, d'élaborer lentement, mais une fois qu'on a décidé quelque chose, on le met en œuvre. Et j'aimerais bien que cette culture-là soit un peu plus celle de l'État et de nos gouvernants. Donc les entreprises, quand elles ont décidé qu'elles allaient vraiment s'emparer de la question, eh bien, elles progressent. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez rapide, mais on constate quand même qu'aujourd'hui, on a pratiquement 4% de personnes handicapées dans toutes les entreprises. La loi, c'est 6, mais peut-être faudrait mieux décider que la loi, c'est 4, et encourager ceux qui font mieux, plutôt que de mettre un objectif qui est compliqué à atteindre et qui est relativement démotivant pour ceux qui n'ont pas forcément des moyens énormes pour faire une politique ad hoc.
Est-ce que justement les politiques de diversité des entreprises doivent mieux prendre en compte l'écart à la norme ? Vous dites que c'est une démarche puissante pour l'inclusion.
C'est la seule solution en fait. Si on regarde une entreprise, vous prenez deux banques par exemple. Deux banques, elles ont un client qui leur demande quelque chose. Globalement, à peu près dans tous les métiers de la banque, elles vont savoir faire un prix pour la chose qui va être à un pouillème près le même. Donc sur le standard, tout le monde fait le même prix. Ce qui va faire la différence entre les acteurs, c'est ce qui n'est pas standard, sur tous les plans. C'est-à-dire celui qui va trouver le produit financier un petit peu mieux fait que les autres. Pour s'entraîner au non-standard, rien de mieux que l'écart à la norme. Si vous avez dans vos équipes des gens qui raisonnent autrement que le raisonnement ordinaire, vous allez forcément embrasser plus de réalité et satisfaire plus de clients. Plus les équipes sont diverses, plus elles sont capables de faire face aux crises. C'est quoi une crise ? C'est quelque chose qui ne se déroule pas normalement. L'écart à la norme, c'est exactement ça. Une crise, c'est un écart à la norme pour une société, pour une entreprise, pour un pays. Et donc, plus vos équipes sont plurielles, sont intersectionnelles, si je peux dire, plus vous avez de chances d'être capable de cette souplesse que le monde qui se prépare demande.
Est-ce que ça a un lien, alors, avec tout ce qu'on appelle maintenant la notion du mieux vivre ensemble, etc. ?
Il faut être pragmatique. Mieux vivre ensemble, je pense qu'il faut déjà bien vivre avec soi, déjà, parce que ce n'est pas facile. Ensuite, une fois qu'on a soi-même conscience à la fois de sa finitude, à la fois de ses limites, à la fois du besoin qu'on a des autres, et c'est plus facile quand il vous manque des trucs. C'est-à-dire que moi, aveugle, je sais très bien que j'ai besoin des autres, ça ne m'est pas du tout compliqué de m'imaginer comme ça. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui est jeune, qui est beau, qui est intelligent, qui a réussi les concours, je peux comprendre que pendant quelques temps, il se croit hyper performant et à l'abri de tout. Mais ça ne dure pas. Donc, c'est là où on peut se dire, il faut que j'aille vers les autres, et pas forcément en mode dominant, mais en mode curieux. Le bien vivre ensemble, c'est être curieux de celui d'à côté ou de celle d'à côté. Comment celui d'à côté ou celle d'à côté appréhende la vie ? Comment est-ce qu'il appréhende le travail ? Comment il appréhende le business qu'on est en train de faire ensemble ? Et en effet, c'est comme ça que le climat s'améliore. Et forcément, une boîte dans laquelle le climat est bon, c'est une boîte qui fera des résultats. Ça, c'est certain.
Quand on a échangé, je vous ai dit, quel est le modèle d'avenir pour les entreprises ?
Ce que je trouve imprudent, c'est dans une équipe de se dire, je vais embaucher quelqu'un qui est différent et je vais compter sur ses collègues pour soutenir son intégration, l'aider dans ses tâches. Ça, c'est donner une responsabilité aux collègues qui peut les insécuriser, qui peut les mettre dans un sentiment d'injustice, et ça ne fonctionne pas forcément. Ça peut fonctionner, mais ce n'est pas optimal. Si on veut que ça fonctionne, il faut que le manager de l'équipe soit engagé et sache ce qu'il fait. Il faut qu'il manage son équipe en se disant « quelle chance d'avoir quelqu'un de différent ». Ça va me permettre de regarder toutes les tâches qu'il y a à faire et ça va me donner le prétexte de savoir en fait ce que mes collaborateurs aiment faire et ce qu'ils aiment moins faire dans toutes les tâches qu'on a à faire. Et peut-être qu'on va bâtir un diagramme des tâches dans l'équipe où, en fait, les tâches ne seront pas attribuées tellement en fonction des fiches de poste ou des grades, mais en fonction des aptitudes et des envies des collaborateurs. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui me semble être plus plastique et plus à même de porter haut l'esprit de l'équipe et les capacités de l'équipe. Pour moi, c'est super d'avoir des bons collègues. Mais il faut se méfier du collègue qui, en fait, va trouver sa raison d'être dans l'aide à la personne différente. Parce que ça risque de clasher et puis ça crée une dépendance qui n'est pas forcément bonne. En revanche, si le manager tire de l'embauche d'une personne différente de quoi booster ses collaborateurs en réfléchissant sur la manière dont le travail est fait, alors ça devient un levier de performance.
Ça pose la question de qui on embauche et comment on fait évoluer les carrières aussi en entreprise.
Oui, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un baromètre du déroulement des carrières, partout. Pas pour que on fasse de l'égalitarisme à deux balles, non. Pour qu'on se rende compte de comment les gens avancent. Et qu'on voit à chaque fois si on peut identifier des biais et qu'on puisse les évaluer et les résorber progressivement, de façon à ce que chacun comprenne pourquoi il est à tel niveau d'avancement, à tel niveau de prime et à tel niveau de carrière. C'est le plus important. C'est d'essayer de gommer les sentiments d'injustice qui empêchent les collectifs de se créer, qui empêchent les gens d'être bien au travail.
Vous parliez aussi de la créativité que l'écart à la norme provoque. Vous disiez que, en fait, ça va se répercuter sur les collaborateurs, mais aussi sur les clients, voire sur les produits. C'est-à-dire que pour vous, c'est tout une espèce de filon, en fait, ou de fil qu'on pourrait suivre.
Je vous parlais du téléphone tout à l'heure. Comment ça se fait que ce téléphone-là, il n'est pas français ? C'est parce que nous, quand on développe quelque chose, on ne pense pas à l'intégralité des clients. Parce que nos équipes sont trop monocolores, elles sont pas assez brassées. Du coup, on ne prend pas en compte celui qui est différent. Donc on conçoit des choses qui finalement ne sont pas accessibles à tous. Et donc on se fait tailler des croupières par des gens qui ont une vision beaucoup plus inclusive. Et c'est bien dommage. Quand vous avez des personnes qui ne peuvent pas marcher, il faut trouver le moyen de les faire arriver quand même au but sans marcher. Donc ça rend créatif. C'est pas compliqué. Mais si dans une entreprise, il y a personne qui ne peut pas marcher, le jour où il faudra penser à rouler, on n'aura pas le réflexe. C'est ça l'intérêt d'avoir des gens différents dans les collectifs. C'est que forcément, si vous êtes différent, vous allez penser out of the box, vous allez penser avec un regard décalé. Regardez ce qu'a apporté l'arrivée des femmes au travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a une entreprise qui accepterait de se séparer des femmes? Maintenant, c'est tellement évident. Enfin, l'apport des femmes en entreprise est colossal. Le plus tôt on s'apercevra de l'apport des personnes handicapées, de l'apport des personnes d'origine étrangère dans les entreprises, le mieux ce sera.
Comment est-ce qu'on peut imaginer faire bouger les lignes et faire prendre conscience aux gens que d'avoir un ou des écarts à la norme, ça peut être différent, enrichissant ?
Il me semble que, tout à l'heure je parlais de l'étincelle d'éternité, on a une vie courte et donc on est toujours pauvre des expériences qu'on n'a pas faites. Je pense qu'il faut donner le goût des autres très vite dans la vie. Vous êtes une femme, c'est intéressant d'essayer de penser comme un homme, et vice-versa. Vous êtes voyant, c'est intéressant de mettre vos yeux au vestiaire et de se dire, tiens, pendant une heure, je vais pas utiliser mes yeux. Qu'est-ce qui va s'en suivre ? Vous allez voir qu'en fait, vos oreilles vont prendre le relais naturellement, votre toucher va être sollicité, et vous allez vous rendre compte que finalement, on est dans une civilisation qui surstimule le regard et la vue au détriment des autres sens.
Amou, est-ce qu'avoir plusieurs écarts à la norme, ça augmente ou ça diminue la façon dont on va être discriminé ?
Je suis tenté de vous dire que ça dépend, en fait. Je vous ai expliqué que aveugle arabe, moi, ça m'avait plutôt servi. Je pense que aveugle et vieux, ça commence à me desservir, clairement. Parce qu'en effet, il y a des discriminations qui sont cumulatives. Elles sont cumulatives parce que vous êtes d'abord discriminé dans le regard de l'autre. Vous êtes discriminé dans les préjugés que l'autre vous porte. Tout le monde fait des distinctions, fait des classements. Tout le monde a des préjugés. L'important, c'est de travailler pour que ces préjugés donnent le moins possible de biais de décision. Parce que le biais de décision, c'est quelque chose qui va vous faire rater des opportunités. Quand je suis dans le métro et que je sors du métro, et que je demande mon chemin, je demande à tout le monde. Je peux aussi bien tomber sur un clochard que sur quelqu'un qui vient de prendre du crack, que sur une charmante étudiante ou un milliardaire. Et ça marche toujours, c'est ça qui est extraordinaire. Pendant presque 40 ans, j'ai été toutes les semaines chercher de l'argent et je demandais de l'aide au distributeur. Une fois par semaine, ça fait quand même un test de 1600 fois et on m'a jamais volé. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est mon écart à la norme qui m'a donné cette ouverture-là.
Comment est-ce qu'on peut se construire quand on a plusieurs écarts à la norme ? Est-ce que les gens s'autorisent à cette chose ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que c'est plus compliqué ?
Il faut de plus en plus qu'on banalise en fait l'écart à la norme. Et que chacun, prenant conscience qu'il a 99% de commun avec son voisin, soit rassuré par ça pour s'ancrer dans ce qui le différencie. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile d'assumer des écarts à la norme. C'est le paradoxe. On est dans une société où on est capable d'être autonome quand on veut et de demander de l'aide quand on veut. Et donc pour des gens qui ont certains écarts à la norme qui sont compliqués à porter ou qui ne sont pas forcément visibles et qui n'ont pas forcément envie que ça se voit, le fait d'avoir des outils technologiques qui vous permettent de mettre les autres à distance, ben ça, c'est un formidable levier pour assumer ce que vous êtes. Mais la société a une responsabilité. En donnant des noms de rue à des femmes, en donnant des noms de rue à des gens d'origine étrangère, à des personnes à orientation sexuelle diverse, en les intégrant dans le modèle universel français, bien elles accroissent le domaine de la norme, elles la rendent plus vaste, plus accueillante, et du coup, on se sent moins dans l'écart à la norme, mais on se sent dans une norme qui est régénérée et qui est ni plus ni moins que ce que devrait être le modèle universel français.
Et des entreprises, vous attendez quoi ?
Qu'elles les recrutent sans préjugés, qu'elles se donnent les moyens de pouvoir recevoir chaque personne en lui demandant pas ce qui lui manque, mais en lui demandant de quoi il a besoin pour donner le meilleur de lui-même dans l'emploi qu'il convoite. En France, on a un modèle très généreux. Les aveugles ou les handicapés reçoivent des allocations, mais on ne les conçoit pas encore suffisamment comme partie prenante de la société et de tout le monde. Ils vivent encore trop à l'écart.
Amou, qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Je me souhaite de continuer à trouver la vie formidable.
Vous venez d'écouter Amou Bouakaz dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.